Alors, donc, on va ouvrir la séance, ceux qui sont avec une minute d'avance. Et comme ça, cette fois-ci, on aura, j'espère, un peu plus de temps de discussion que la semaine dernière. On reste un peu dans les mêmes chronologies. Par contre, on va partir un peu au-delà de la France aujourd'hui, notamment avec la première présentation de Victor Klass. Victor a soutenu sa thèse en 2017 sur le critique d'art allemand Julius Meyer-Graefe, une thèse qui a été brillamment soutenue et pour laquelle il a reçu le prix du musée d'Orsay. Donc on va bientôt pouvoir le découvrir sous forme imprimée. Il a beaucoup travaillé aussi au Centre allemand d'histoire de l'art et je pense que c'est aussi là un peu où les recherches que tu vas nous présenter aujourd'hui ont peut-être pris leurs origines. Et aujourd'hui, il est postdoctorant au musée du Louvre, dans un cadre qui est assez nouveau de partenariat avec Sorbonne Université. Il va donc nous présenter ses recherches les plus actuelles sur ces questions.
1, 2, vous m'entendez clairement? Oui. Merci infiniment, Felicity, merci aussi Léa pour cette invitation et à travers vous je remercie Bénédicte, hein, on l'aime pour ses cours, on l'aime aussi pour tout ce qu'elle fait pour que d'autres aussi générations suivantes prennent la parole, dont ce séminaire, je suis très heureux d'être là. Il n'y aura pas d'introduction dans le sens, une introduction très précise avec un précis historiographique et des problèmes méthodologiques. Je pense que les problèmes méthodologiques que je vais présenter dans cette conférence vont un peu être le fil rouge, vous le verrez. Je vais avant tout vous raconter une histoire. Vous allez voir, c'est assez surprenant, c'est assez sensationnel parfois. Donc j'espère attirer votre attention aussi sur le côté un peu récit, le côté un peu enquête qui entoure ce projet de recherche que je présente ici sous ce titre de « Les ambassadeurs muets », donc une citation, « Exil d'objets d'art français aux Amériques entre 1939 et 1947 ». Je rentre directement dans le vif du sujet. J'écris beaucoup, j'ai tendance à être bavard, à digresser, mais vous m'arrêtez quand je dois conclure, et puis je me laisse guider par mes images et je termine sans aucun problème. Donc une partie de mes recherches actuelles, qu'est-ce que je fais en ce moment? J'essaie de comprendre la raison pour laquelle un pays comme la France, a consacré une énergie si considérable à la mise en circulation de son patrimoine national à l'étranger pendant les années d'entre-deux-guerres. Bien, cette question pourrait être aussi posée dans une certaine mesure pour des pays comme l'Italie ou l'Allemagne, mais il y a quelque chose qui fait du cas de la France et de la Troisième République quelque chose d'assez singulier, un cas vraiment intéressant au sein de l'Europe. En raison d'une sorte d'ingénierie de la propagande culturelle, vous allez voir, qui est très très efficace. Un pays, la France, qui, sous la Troisième République, bénéficie d'une sorte de moteur de translocation, je ne sais pas comment le dire autrement, dont les mécanismes sont optimisés assez rapidement après la Première Guerre mondiale. Je ne vais pas du tout ici rentrer dans les détails administratifs de cette Association française d'action artistique, donc vous avez une sorte de publicité sous les yeux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le lieu, c'est mieux pour une publication peut-être. Mais cette association donc française d'expansion et d'échange culturel qui est créée dans les années 20, qui devient ensuite l'association française d'action artistique, et qui existe encore en réalité aujourd'hui sous une forme très modifiée à travers les décennies sous le nom de Culture France, c'est un peu le service, le terme est très d'époque, d'expansion culturelle de la France dans l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale également, et qui était placé, ce service, pour le dire vraiment de manière très directe, ce service de propagande culturelle de la France à l'étranger, et sous double tutelle du ministère des Affaires étrangères d'un côté et du ministère de l'Instruction publique de l'autre. Donc c'est un organisme qui est mis en place au début des années 20, qui a un objectif qui est somme toute assez simple, qui cherche à consolider, à sécuriser l'influence artistique de la nation française dans le monde. Comment ? Me demandez-vous, et bien à travers des expositions d'art à l'étranger, l'organisation d'expositions d'art ancien, d'art contemporain, mais aussi, bien sûr, des tournées de concerts, des réunions, des rencontres, des conférences, qui impliquent des écrivains, des critiques, des savants. C'est aussi un organisme, l'AFA, comme on l'appelle plus tard, hein, l'AFAA, l'AFA qui assure le financement de projets de traduction, par exemple, en littérature ou dans la littérature scientifique, de tout projet, en somme, qui implique un échange culturel. Bien. En étudiant, alors c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie d'aller voir des cas d'études, telle exposition organisée en telle année, pourquoi, comment ça a fonctionné, est-ce que c'était une réussite du point de vue de la République ou non. Donc en étudiant ces cas d'études, surtout dans les années, deuxième moitié des années 20 et 30, c'est vraiment un catalogue imposant d'événements qui est organisé et financé par cette association. Je suis tombé sur tout un tas d'histoires qui sont plus ou moins connues et plus ou moins sensationnelles. Certaines opérations de propagande culturelle de la France des années 30 sont incroyablement efficaces et se soldent par des succès considérables, encore une fois, du point de vue de la République qui les organise. L'exemple type serait la grande exposition d'art français de Londres en 1932, qui est organisée à la Royal Academy, à la Burlington House, qui était une sorte d'énorme exposition qui retraçait l'histoire du génie français du début du XIIIe siècle à l'ère contemporaine. Vous voyez, le programme est très ambitieux et qui rassemblait à Londres, qui délocalisait à Londres 1000 objets de tous les musées français, de collections privées. C'était vraiment un grand moment de la vie culturelle londonienne des années 30. Et l'exposition, je le précise en passant, répondait dans le cadre de cette compétition entre les nations européennes, à la grande exposition d'art italien que Mussolini contribue à organiser en 1929-30 dans les mêmes lieux. Donc il y a ce combat aussi entre les nations qui se joue dans une nation tiers, ce qui est un phénomène assez intéressant. Donc des succès parfois, mais ces vues étonnantes de tous ces tableaux qui sont pour la plupart aujourd'hui au Louvre ou au musée d'Orsay. Des succès, mais aussi parfois des échecs, des fiascos, dont l'histoire a quelque peu réprimé la mémoire. Et j'essayais d'en réactiver justement la mémoire en travaillant, il y a 2 ans, j'avais eu ce projet autour du naufrage du Paris. C'est un paquebot qui devait acheminer des œuvres d'art françaises issues des collections publiques et privées à l'exposition universelle de New York en 1939. Retenez-la, elle revient après dans ma conférence. Et le paquebot prend feu et coule dans le port du Havre, emportant avec lui dans la boue normande des sculptures de Coisevaux, des sculptures de Carpeaux, du Louvre et donc aujourd'hui du musée d'Orsay, puisque certains objets ont été repêchés des eaux 10 ans après. Enfin, c'est une histoire absolument étonnante. Un projet que j'ai terminé, vous voyez ici, je faisais de la publicité pour un volume de mon ancien groupe de recherche dans lequel j'ai pu présenter les conclusions de cette recherche, si elle vous intéresse. Et ces cas d'études, donc, m'ont encouragé au fur et à mesure, c'était assez inattendu pour moi, à étendre mes recherches, non pas seulement à l'histoire des expositions, des collections ou de la confrontation des récits artistiques, mais aussi m'ont incité à me préoccuper parallèlement de l'histoire du transport des œuvres d'art, mais d'une manière vraiment très logistique, hein, vous savez, très pragmatique. L'histoire de la professionnalisation, du perfectionnement des moyens du transport des œuvres, qui amène à avec lui, avec elle, cette professionnalisation aussi, la possibilité de drame, bien sûr. Je vous place sous les yeux un moment étonnant, une vidéo qu'on peut trouver dans les archives Gaumont-Pathé, qui m'a été soufflée par Adrien Virabin, un collègue. On voit un tableau de Renoir qui est déchargé d'un avion pour la grande exposition Renoir de 1933 à l'Orangerie, la naissance du transport aérien pour les œuvres d'art. On était en 1939 avec notre histoire de paquebot. L'année 1939, pour tout un tas de raisons évidentes, qui a été une année compliquée. Je voudrais évoquer aujourd'hui une exposition qui a été entièrement financée donc, par le gouvernement français, par la Troisième République, en Amérique latine, et ses aventures, vous le verrez, sur le continent américain. La peinture française de David à nos jours, c'est son titre, a été montrée au Musée des Beaux-Arts de Buenos Aires pendant l'été de 1939, et c'est une exposition qui montrait, pour vous donner une idée, 200 peintures, modernes et contemporaines, pardon, et près de 100 dessins et œuvres graphiques, la plupart prélevées dans les collections publiques de la nation. pas toutes, mais on y reviendra. C'est une exposition conçue, organisée en moins d'un an. Hein, vous savez, ça va très vite avec les services d'action culturelle du ministère des Affaires étrangères. Et pourquoi en moins d'un an ? Parce que ça suit une sorte de protocole qui fonctionne déjà à plein régime, à ce moment, qui est très bien rodé. Un protocole qui a déjà été mis à l'épreuve dans tout un tas d'expositions du même genre qui sont présentées par la France dans divers pays dans les années 20. Ce qui m'intéresse ici, c'est comment cet événement latino-américain s'est brusquement, ou progressivement plutôt, transformé en une ambitieuse tournée d'art français impliquant une douzaine de villes sur une période de près de 10 ans. Donc, pour reformuler cette dernière phrase, je voudrais expliquer ici comment une opération qu'on appellerait aujourd'hui peut-être une opération de soft power, assez ordinaire de l'entre-deux-guerres, s'est transformée en une multitude d'événements à très haute valeur diplomatique et symbolique. Au milieu des années 30, le gouvernement français faisait régulièrement commande de rapports à ses ambassades sur le statut de la culture française dans les pays étrangers. Ce sont des rapports, vous en avez un sous les yeux, qui prennent la forme de documents d'une trentaine, parfois 40, 50 pages, comme ce rapport de 35 sur l'influence et les opérations de propagande des pays étrangers en Argentine, qui compare ces rapports, souvent ça marche comme ça, qui compare la situation de la culture française dans certaines parties du monde à celle de l'Espagne, à celle de l'Italie ou à celle de l'Allemagne. Et dans chacun des champs importants de la culture, ça peut être dans le théâtre, dans la musique, le cinéma, les beaux-arts ou la littérature. Le rapport que vous avez sous les yeux se concentre sur Buenos Aires parce que d'autres villes comme Córdoba ou Rosario étaient réputées moins perméables à l'influence française en raison de, et là je cite ce que vous ne pouvez pas lire parce que vous êtes trop loin, en raison de l'origine ethnique de la plupart de leurs habitants, comme l'indique donc ce document. Les premières pages de ce rapport mentionnent la réputation très installée de l'art français en Argentine, sa haute réputation, et bien sûr le statut de Paris comme capitale des arts de renommée internationale, avec ces flopées d'artistes latino-américains qui se rendent à Paris pour se former. L'Espagne, en ce qui concerne par exemple les expositions, il est mentionné que l'Espagne est en tête sur les dernières années, avec 22 expositions organisées à Buenos Aires, talonnées par la France, qui a déjà organisé 7 événements. Donc, pour les beaux-arts, hein, l'Espagne et la France sont en tête. Pour le cinéma, il est sans surprise dominé par les États-Unis, par l'industrie du cinéma américaine, tandis que l'Allemagne entretient sa réputation d'une nation musicale et domine dans ce domaine-là. Suivant l'épanouissement de l'hitlérisme et la poussée totalitaire, une autre partie du rapport mentionne comment la dictature et la condition des Juifs d'Europe avaient, je cite, élevé les consciences des peuples américains et initié une grande sympathie active en faveur de la France et en faveur de l'Angleterre. Fin de citation. En Argentine, la culture, la langue française était effectivement prisée, son art collectionné par une élite francophile, surtout à Buenos Aires. Je me réfère là aux travaux d'historiennes, d'historiens d'ici et de là-bas, qui ont d'ailleurs très bien retracé les origines, la formation, le développement de ce goût depuis le XIXe siècle. Et j'illustre simplement cette donnée par la nymphe surprise de Manet, qui est une acquisition assez précoce du Musée des Beaux-Arts de Buenos Aires et qui constitue encore aujourd'hui une des pièces importantes de ces collections européennes du XIXe. L'impressionnisme, le paysagisme français est extrêmement discuté entre les artistes et les critiques locaux. Il y a une scène de peinture impressionniste autour de 1900 dans plusieurs pays d'Amérique latine, dont l'Argentine. Dans cette relation complexe, oscillant entre appropriation et démarcation de modèles européens, qui illustre là vraiment ce qui fait l'intérêt, l'ambivalence, la très belle ambivalence et la dimension intéressante de ce qu'est le modernisme latino-américain. Là encore, il y a toute une littérature spécialisée sur la question qui en traite remarquablement. J'en reviens à cette opération de propagande naissante. Donc vous voyez qu'il y a un contexte qui est là et qui est favorable. Avec pour volonté de renforcer les intérêts économiques, diplomatiques, culturel de la France de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi avec cette idée en tête de venir contrer les opérations de propagande italienne ou allemande en Amérique latine. La Troisième République savait pertinemment qu'une importante carte pouvait être jouée à Buenos Aires et qu'une dynamique pouvait y être exploitée. Il est écrit, je ne vais pas lire cette citation, juste une partie, « Il semble que le moyen d'expansion française le plus efficace dans notre pays » donc je crois que c'est une lettre qui vient de l'ambassade de France en Argentine, serait une exposition d'art français. C'est une note d'intention de 1938. Et pour ce faire, le gouvernement confie à un conservateur du Louvre, le jeune René Huyghe, la tâche d'orchestrer une saison française à Buenos Aires qui culminerait avec l'organisation d'une grande exposition de peinture moderne. Huyghe, il a là 33 ans, il était propulsé très très vite conservateur du Louvre dans sa vingtaine, c'est un peu le jeune premier qui a une carrière fulgurante et qui a déjà contribué à plusieurs opérations du même genre dans d'autres pays. Il a l'expérience de ça, donc on lui fait confiance. Et c'est d'ailleurs sur ce début de carrière, c'est sur ces événements qu'il a vraiment boosté, pour le dire vulgairement, sa jeune carrière, qui a été ensuite celle que vous connaissez peut-être, et la chaire du Collège de France qui suivra après la guerre. Il avait été d'ailleurs l'architecte principal de l'exposition de Londres, l'un des architectes principaux de l'exposition de Londres que je mentionnais juste avant. J'en viens à cette exposition, donc la première mention précise du projet, c'est cette note d'intention que j'évoquais de 38. Une fourchette chronologique est immédiatement restreinte pour s'accorder au mieux au goût local. L'art des 18e et 19e siècles, impressionnisme inclus, est privilégié, au prétexte que l'art du 17e siècle était, je cite ce document, « plus difficile à comprendre, moins aimable et surtout moins dans le tour d'esprit des Argentins et de leur formation artistique ». Bon. Une étendue chronologique qui est par la suite étendue à l'art contemporain, vous allez le voir. En collaboration avec le personnel du Louvre, qui n'avait bien sûr, ou des musées nationaux, qui n'avait bien sûr aucun mot à dire en fait, sur les directives qui venaient de son ministère de tutelle, Huyghe parvient à une sélection d'œuvres de la plus haute qualité, qui offre au public argentin une illustration vibrante de la création française sur plus d'un siècle. Il choisit des peintures et des dessins de la collection du Louvre et de la plupart des grands musées de province, en activant, et c'est très intéressant cet aspect-là, aussi son réseau de collectionneurs privés qui participent régulièrement aux opérations d'action culturelle de l'État. Et par ailleurs, il y a cette dimension qu'il faut toujours garder en tête ici, c'est que en ce qui concerne l'art impressionniste ou du second 19e siècle, les collections restent toujours assez pauvres. Enfin, la critique française et parfois les représentants des musées français s'en plaignent que ces œuvres sont en main privée et ou en musée, dans des musées étrangers. C'est un peu toujours cette culpabilité hein, qui traverse un peu aussi l'entre-deux-guerres, de ne pas avoir su acheter nos modernes au bon moment, quand ils étaient encore bon marché. Parmi les prêteurs, le Louvre, Musée de Versailles, Bordeaux, Grenoble, Marseille, Rouen, prêteurs publics, donc, ici, vous voyez, donc, le portrait du pape de David, on est là vraiment dans des tableaux de qualité, le Grand de la Croix, le Bain turc d'Ingres, qui est un des grands prêts de cette exposition, mais aussi des prêteurs privés, Bernheim Jeune, Durand-Ruel, Rosenberg, Seligman, Wildenstein, et des collectionneurs d'Amérique latine qui rejoignent la course. Vous avez ici donc cette jetée de Claude Monet et le skating de Manet qui était en possession d'une certaine Madame F. C'est indiqué comme ça dans le catalogue, nous y reviendrons peut-être. Donc l'impressionnisme est particulièrement prisé dans cette quête de Huyghe, mais parmi les œuvres contemporaines, c'est une exposition qui, d'un point de vue esthétique, en 1939, est relativement conservatrice, mais il y a quand même des échappées contemporaines qui sont pour la plupart des œuvres en main privée, issues du catalogue illustré ici de l'exposition, donc Picasso, vous voyez à gauche, mais des œuvres de Balthus, un petit Balthus, en fait, que j'arrive pas vraiment à identifier, mais j'y travaille, un Braque, des Delaunay et Matisse, jusqu'à Picasso, que la France annexait très volontiers pour en faire un héros national. Et c'est amusant d'aller voir les archives, parce que quand on voit les expositions du même type organisée par l'Espagne, bien sûr, Picasso y figure aussi. Je ne désespère pas de vraiment trouver quelque chose de convaincant qui présente la muséographie de l'exposition des vues. Le seul document dont je dispose est un film, aussi super un film, commandé par le gouvernement argentin pour promouvoir l'exposition. Mais il ne dit rien vraiment de l'exposition, parce que c'est un ensemble de plans fixes, de close-up sur la plupart des tableaux. Qui donc ne donne aucune information sur le display, comme on dirait chez les spécialistes. Et le film, peut-être que vous allez le voir, se termine d'ailleurs sur un plan un petit peu embarrassant d'un visiteur qui porte un intérêt visiblement manifeste pour un corot qui est une nymphe nue et alanguie qu'il regarde avec sa loupe. Néanmoins, avec l'aide du personnel du musée de Rosario, avec qui j'ai un petit peu interagi, j'ai pu mettre la main sur cette vue de l'exposition telle qu'elle est montrée quelques temps plus tard dans la province de Santa Fe, au moment où l'ensemble des œuvres commence à tourner du continent, que je vais vous raconter. Bon, dans tous les cas, on voit dans cette vue que c'est un accrochage très René Huyghe. Il aimait beaucoup la simplicité, la sobriété, la symétrie. Il était très adepte des salles qui se fondent les unes dans les autres, avec les siècles qui se mélangent ou les décennies qui se mélangent. L'idée de fluidité de la muséographie et de la didactique muséographique est importante pour lui. On voit bien sûr sur cette image la nymphe de Manet, la fierté de la collection de Buenos Aires, soudainement, grâce à l'arrivée, l'import éphémère de tous ces tableaux venus d'outre-Atlantique, dispose d'un environnement esthétique absolument familier, donc s'épanouit d'autant plus. Mais l'historien de l'art que je suis me passe aussi de omettre que ce qu'on voit là aussi, c'est le résultat d'une opération diplomatique extrêmement bien conçue, dans laquelle deux nations s'unissent par leur possession, par leur bien, dans un amour supposément désintéressé des choses de la beauté. Donc c'est la France qui finance la grande partie de l'événement, environ 750 000 francs de budget, de francs de l'époque, et l'État argentin, tout de même, injecte de l'argent, 200 000 francs, dans l'organisation grâce à l'implication d'un député argentin et collectionneur extrêmement francophile, Antonio Santamarina, qui est aussi réputé comme l'un des premiers collectionneurs de peinture impressionniste en Argentine. Et il y avait, j'ouvre là une parenthèse parce que ce n'est pas encore une thématique que je maîtrise suffisamment bien, mais le gouvernement argentin en 38-39 essayait à tout prix de séduire les upper middle class, cette bourgeoisie raffinée, cultivée et francophile, et l'arrivée de cette exposition était bien sûr ici une manière de les brosser dans le sens du poil, pour ainsi dire. Les archives, donc cofinancement partiel, mais les archives indiquent que vraiment la France tient à garder le contrôle total du choix des œuvres, de la narration, du récit qui entoure ces œuvres, tient à garder le contrôle de la muséographie. On lit dans une lettre, la chose doit être une leçon de muséographie, même dans une lettre au ministère. Et ce catalogue, dont vous avez une page sous les yeux, n'a aucune espèce de valeur scientifique, disons-le simplement, qui est flanqué d'une introduction typiquement diplomatique qui présente la France comme la terre de clarté, la terre de raison, la terre de liberté, traversant des temps troubles, parce qu'on est en 1939. Huyghe, avant l'arrivée de l'exposition, avait été envoyé par le ministère des Affaires étrangères pour, c'est ce qu'on lit dans les lettres, pour préparer le terrain. C'est-à-dire qu'il fait une tournée de conférences en 1938 pour préparer, pour instruire le grand public sur les tableaux qui vont arriver bientôt ou sur l'atmosphère culturelle de la France du 19e siècle. Et on trouve dans les archives diplomatiques, chaque ville de cette... On trouve l'ordre de mission, si vous voulez, où on voit l'ensemble des villes et des lieux dans lesquels il a conférencé. Et à droite, vous voyez une liste de l'ensemble de ses conférences, leurs titres, et ces noms d'artistes et d'œuvres sont en réalité les clichés qu'il montrait pendant ces conférences. Il y a aussi toute une liasse qui se préoccupe du fait que ces photographies, ces reproductions qui étaient projetées, arrivaient en Argentine par la valise diplomatique. Donc on est là vraiment dans l'art instrumentalisé jusque dans les questions les plus pragmatiques. L'exposition je vous le donne en mille, est ouverte un 14 juillet. Le musée est entièrement vidé de ses collections propres pour accueillir les prêts français. Le ministère s'en réjouit, hein, surtout les drapeaux. Ils adorent le fait que le musée, qui est au cœur de la capitale, soit orné de drapeaux français. Et les services veillent à envoyer une troupe de théâtre, des musiciens, pour qu'il y ait un peu une pompe autour de l'événement. Naturellement, Paul Valéry, il accepte directement, il fait partie du lot, et il conférence dans la première semaine du vernissage, comme il le faisait souvent dans ce genre d'opération dans les années 30. Les archives diplomatiques documentent le succès important de l'opération. 140 000 personnes visitent l'exposition pendant les 40 premiers jours, 10 000 lors des jours de gratuité, les salles remplies, la presse raconte tout ça. Les ouvertures en nocturne sont mises en place parce que les gens veulent voir et voir davantage. La presse est dithyrambique des deux côtés de l'Atlantique, ou alors c'est difficile de trouver les voix un peu résistantes ou les voix sceptiques parce que on dispose souvent des liasses de presse qui sont collectées par les services de l'ambassade et donc on se demande s'il y a eu une sélection en amont ou pas. Donc ça, c'est encore à moi d'aller dépouiller davantage. Mais dans une de ces notes adressées au ministère, l'ambassadeur de France en Argentine rapporte cet énorme enthousiasme qui est suscité par l'événement. Il écrit à Daladier, donc ministre des Affaires étrangères, je cite, « Pendant plus de deux mois, le public cultivé et le grand public ont eu l'impression de participer continuellement à la vie française et d'être en quelque sorte à Paris. Les Argentins dont l'amour propre est extrêmement sensible ont été flattés de voir la France leur envoyer, malgré la distance, un ensemble si imposant de manifestations artistiques. Ils ont parfaitement compris tout le mérite d'un tel effort au moment où l'Europe entière vivait des heures d'anxiété. » Anxiété, le mot fait transition, la guerre survient, en effet, au mois de septembre 1939, peu après la fin de l'exposition de Buenos Aires, et très très vite, l'option du rapatriement des œuvres sur des océans incertains, clin d'œil encore une fois à ce tableau, de ce paysage marin inquiétant, un petit peu de Claude Monet, compris dans l'ensemble. L'option du rapatriement des œuvres sur des océans incertains, qui prendrait le risque d'un torpillage des œuvres, que ce soit un bateau civil ou militaire, est rapidement écartée. Et c'est le moment incroyable où ces discussions interministérielles commencent pour décider du sort de ce lot de tableaux bloqué outre-Atlantique. Et la décision est prise rapidement de poursuivre, grâce donc à la présence de ces œuvres à l'étranger, les opérations culturelles, non seulement en Argentine, mais dans les pays voisins en temps de guerre. Une lettre à Daladier, toujours Daladier le même, d'octobre 1939, est absolument claire. Le prestige de notre pays à l'étranger dans le domaine culturel exige que notre activité artistique continue à se manifester au maximum malgré la guerre. Il est indispensable que l'étranger sache qu'à côté de la France qui se bat, survit une France qui pense, produit, cherche. Ce qui se passe juste à ce moment-là, c'est que le ministère des Affaires étrangères donne à un personnage dont j'ai du mal à retracer le parcours, qui s'appelle Charles Chénier, charge ce personnage de devenir le manager officiel de cette collection, son curateur, je ne sais pas comment le dire, son gardien, son ange gardien. Il est chargé, il est envoyé en Amérique latine pour s'assurer que la communication passe bien entre les autorités locales et l'ambassade et les ministères en France, s'assurer que le transport des œuvres se passe dans des bonnes conditions, que l'emballage, le déballage aussi se passe dans des bonnes conditions. Et il a une formation de restaurateur, donc il connaît bien les œuvres dans leur matérialité. René Huyg est hors concours, puisqu'il est lui mobilisé en France, en août surtout, pour l'évacuation des collections du Louvre dans les dépôts de province, mais vous connaissez très bien le sujet maintenant que Carnot en a fait sûrement un très brillant précis que j'ai malheureusement raté. Donc, contre l'avis des personnels des musées nationaux, vous l'imaginez, dans la plupart du temps, les conservateurs des musées, il est plus naturel de penser qu'ils défendraient l'idée d'un statu quo, de stocker les tableaux et les œuvres dans des endroits sécurisés. Mais on voit à travers les lignes de leurs lettres, hein, qu'ils n'ont pas leur mot à dire, encore une fois, et qu'ils subissent un peu ce qui se joue plus haut. C'est une véritable tournée latino-américaine qui commence. L'exposition part de Buenos Aires, elle rejoint la ville de Rosario. avant de prendre la route vers Montevideo, en Uruguay, et à Rio de Janeiro, un peu plus tard. On trouve des lettres étonnantes d'attachés culturels d'Amérique latine qui parlent de l'envoyer au Brésil, Chili, Pérou, Cuba, États-Unis, etc. Des programmes encore plus ambitieux. Mais c'est l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil qui sont au cœur des préoccupations des autorités françaises pour des raisons qui sont là aussi hein, des raisons d'ordre politique et diplomatique. Comme l'indique cette note de 1939, où il est indiqué « Nous ne pouvons pas nous désintéresser de l'Uruguay, plein de sympathie pour notre culture et pour notre cause, qui mit tant de promptitude en 1914 à rompre sa neutralité en notre faveur, ni d'un grand pays du versant pacifique, le Chili, où l'influence allemande a été très grande dans l'armée, mais où l'aristocratie et le monde universitaire, pénétrés de culture française, sont beaucoup plus près de la France qu'on ne le croit d'ordinaire chez nous. » J'ai peu d'informations sur la station brésilienne de l'exposition, il faut que je poursuive mes recherches, mais le gouvernement uruguayen, pour sa part, a contribué à hauteur de 60 000 francs pour couvrir les coûts de la venue de l'exposition. C'est là qu'on bifurque dans le champ du symbolique. C'est là où brutalement, d'un coup, en raison du statut de guerre, en fait, l'exposition voit son statut symbolique transformé de manière significative. Initialement censé illustrer le génie lumineux, joyeux de l'art français, pour reprendre les terminologies d'époque, lors d'une période d'anxiété, la fin des années 30, l'exposition devenait celle d'un pays attaqué, d'un pays militairement en danger, mis en danger par une nation voisine. L'affiche de l'exposition, telle qu'elle a été montrée à Montevideo, réalisée par le sculpteur uruguayen Antonio Pena, qui s'était un temps formé en France, il est passé même, me semble-t-il, chez Bourdel. En contradiction totale, cette affiche, avec le contenu de l'exposition et le calme de ces paysages impressionnistes, se réfère à une tête criante, celle de la Marseillaise de Rude, des années 1830, celle de la Marseillaise de Rude de l'Arc de Triomphe, hein, ce même motif dont le moulage en plâtre a été récemment abîmé pendant les manifestations des Gilets jaunes à Paris. Et je ne sais pas du tout quoi faire de cette confusion symbolique autour de ce rapport et autour de cet acte de destruction, qui a néanmoins, vous le voyez sur cette coupure de presse, conduit les journalistes français à se comporter en panofsky ou en iconologue en herbe. S'agit-il de Marianne ? Non, il s'agit d'une allégorie de la Marseillaise, etc. Dans tous les cas, des intellectuels uruguayens comme Montero Bustamante accompagnent la traditionnelle rhétorique de l'universalisme, de l'universalité défendue par la France. Il dit dans son discours d'inauguration à Montevideo « Quel magnifique peuple que le peuple français, qui même dans l'inquiétude des heures qu'il vit, sait dissimuler son angoisse sous le rêve fécond de ses artistes, etc. » Ensuite, on a cette idée que la France a sa chair d'enseignant à l'université du monde. Toute cette rhétorique, en fait, qui accompagne le récit souvent défendu par la France. Et ce qui m'intéresse là, alors d'un point de vue méthodologique, c'est vraiment comment l'universalisme français est devenu son nationalisme, dans une forme de paradoxe qui n'en est pas un, et comment cet universalisme français se construit par le miroir de l'image que lui renvoient d'autres groupes culturels. On est là vraiment dans les transferts de symboles, et je trouve ça extrêmement saillant et intéressant. Toute petite parenthèse, encore une fois, il faut que j'aille dans les archives là-bas, que je dépouille davantage là-bas pour trouver les voix un peu soit dissidentes ou alternatives ou critiques. Parce que sinon, on a toujours l'impression qu'il y a une France active et un pays qui réceptionne et qui est passif. Et bien sûr, c'est plus compliqué que ça. L'idée de faire voyager l'exposition au Chili est assez rapidement abandonnée. Hein, les Andes, c'est dangereux à traverser avec tout un tas de tableaux. Mais en Amérique du Nord, rapidement, les conservateurs du musée réalisent qu'il y a quelque chose à faire avec cette présence forcée de peinture française sur le continent. Comme l'historienne Nancy Yead l'a révélé dans le seul et bref article à ce jour consacré au versant nord-américain de cette affaire, c'est Walter Hale, le directeur du The Young Museum de San Francisco, qui a orchestré l'importation de cette exposition d'art français d'Amérique latine. Tout commence parce que Nancy Yead qualifie dans cet article de requête innocente lancée par ce conservateur américain au service d'action culturelle français en juin 1939. Il demande, en gros, au service d'action culturelle du ministère des Affaires étrangères français, si il y aurait, à tout hasard, des prêts possibles à avoir à obtenir pour organiser une exposition d'art français. Vous noterez que le conservateur s'adresse non pas à ses homologues français, mais directement au service d'action culturelle, parce qu'il comprend bien comment ça fonctionne et que c'est par eux qu'il faut passer. Et là, il reçoit cette réponse qui met du temps à arriver, mais qui arrive, qui vient du directeur de l'action artistique, qui s'appelle Philippe Erlanger, et qui lui dit, donc, après la déclaration de guerre, « Eh bien oui, il se trouve qu'on a quelques petites choses pour vous. » Il lui écrit « Par chance, nous avons à disposition sur le continent américain des collections remarquables qui sont pour le moment à New York et à Buenos Aires. » J'ai traduit cette citation, je ne sais pas si dans les sources californiennes, elles sont écrites en français au conservateur ou si elles sont directement en anglais, auquel cas vous avez eu les deux versions sous les yeux. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le « happily ». Parce qu'on a, alors, soit c'est fortuit que les œuvres soient là, soit c'est une grande chance, soit nous sommes très heureux de. Donc ça m'intéresse de savoir comment c'est présenté, en fait. Alors vous me direz, New York, qu'est-ce que New York vient faire là-dedans ? Je vous parle d'Amérique latine. New York, c'est très simple. Rappelez-vous de mon histoire de bateau. La France organisait, en 1939, une exposition du même genre, plus petite, mais du même genre, et contribuait à des expositions d'art ancien à l'Expo universelle de New York de 1939, et avait envoyé Chardin, Poussin, Watteau, la forge de Louis le Nain que vous avez ici sous les yeux, donc des pièces fortes du musée du Louvre, et elles étaient elles aussi bloquées de l'autre côté de l'Atlantique. Bien. Elles avaient survécu aussi au naufrage du bateau, mais c'est une autre histoire. Les œuvres de Buenos Aires sont naturellement celles dont je vous parlais juste avant, les 200 tableaux et les 100 dessins. Condamné au silence, donc, le personnel des musées nationaux laisse le destin des peintures entre les mains de son ministère de tutelle. La proposition de San Francisco est acceptée et est une station californienne de l'exposition assurée. Les tableaux sont emballés sur un vapeur direction New York, un liner américain. New York, les tableaux, les 200 tableaux, les 300 pièces chargées dans un train qui traverse les États-Unis, les pièces sont convoyées en Californie. Mais les tribulations ne s'arrêtent pas là. Et c'est là que ça devient de plus en plus sensationnel. C'est que les musées américains s'écrivent tous les uns les autres en se disant « Nous aussi, on serait très heureux de pouvoir présenter cet ensemble de tableaux. » Et donc là, ils se groupent parfois par consortium. J'essaie en ce moment de décrypter comment ça s'est passé, hein, c'est compliqué. Mais plusieurs musées d'une région proche vont se grouper et partager les frais d'assurance, par exemple. Dans cette dynamique, les tableaux sont convoyés à Los Angeles pour une présentation de l'ensemble. Ils sont envoyés ensuite au Metropolitan Museum à New York en 1941, puis juste à côté à Worcester, puis à l'Art Institute de Chicago, puis pourquoi pas revenir à Los Angeles pour une deuxième version de l'exposition avec réimpression du catalogue, puis Portland, qui réclamait aussi l'exposition, puis une dernière fois en Californie, à San Francisco, pour une dernière apparition californienne, avant que le tout ne soit remballé et envoyé à la National Gallery of Art de Washington, D.C., où les tableaux, à partir de 1942 et jusqu'à leur rapatriement en France, en 1946 et 1947, les tableaux ont été stockés. Les tableaux restent, donc vous voyez cet arrangement, à la galerie de Washington, où elles sont, les œuvres, exposées de manière permanente pendant toute cette durée. C'était une des conditions posées par la France, que les œuvres soient visibles. Alors c'est là que je regarde le temps. Et je peux être plus ou moins précis et fouiller sur le reste des choses que je voulais dire, mais je peux simplement les lister. Enfin, je suis pas du tout obligé de tout dire. J'ai aucun problème avec ça. On pourrait se lancer tout d'abord sur une histoire de la réception. C'est une première piste. Ces expositions américaines ont eu un succès absolument considérable. Vous voyez ici l'arrangement du Monet que je montre depuis le début, qui est un peu aussi le fil rouge, la jetée au Havre, dans cette photo très mise en scène, hein, où les gens s'écartent pour laisser l'œuvre respirer, un vernissage bondé à Chicago. On pourrait évoqué le succès que l'exposition a à New York. J'étais récemment aux archives du Metropolitan Museum où j'ai pu un peu glaner quelques documents. J'ai regardé comment ils ont assuré la communication de l'exposition. Vous avez l'affiche qui était placardée dans toute la 5e avenue, dans les métros new-yorkais, dans les bus. Très intéressant le fait aussi que le Met organise une vraie saison française avec une exposition de mode aussi en même temps. Les coupures de presse donc, qui sont pareilles et qui décrivent les salles pleines, les salles combles. Donc une histoire de la réception qui pourrait pas seulement se préoccuper de ces questions de succès ou de non-succès du public, mais aussi, vous voyez, au moment où New York va voler l'idée de l'art moderne à Paris, selon un récit très canonique et à revoir de l'histoire des avant-gardes, il serait aussi intéressant de voir qui voit quoi parmi les artistes de la jeune scène américaine, dont l'éclosion est si importante aussi dans les années 40 et 50 par la suite. Est-ce que ça a joué un rôle ou non ? Une autre piste est aussi dans le domaine de la réception, mais viendrait essayer d'étudier comment. Et alors là, je trouve, vraiment, là, ça fait partie des choses qui m'intéressent vraiment le plus, c'est de voir comment cette exposition figeait l'image d'une France un peu idéalisée, qui semblait avoir un peu perdu le contrôle sur son propre patrimoine. Il y a tout un tas de lettres paniquées entre les musées nationaux et les ministères où ils ne savent même plus où et quoi. C'est-à-dire que les œuvres bougent tellement, elles sont tellement transloquées qu'on ne sait plus comment les situer. Donc ils font tout un tas de listes pour essayer d'y voir un peu plus clair. Mais l'idée que je voulais avant tout proposer ici, c'est cette idée que symboliquement, les musées américains, les institutions américaines, l'État américain qui va rentrer en guerre à ce moment-là, en 1942, devient symboliquement donc le garant, le gardien de la France libre à travers ses œuvres d'art. Donc, qu'est-ce que ça implique dans le rapport aux œuvres ? Qu'est-ce que ça implique vis-à-vis de l'iconographie des œuvres, qui sont des paysages, qui sont des portraits, qui n'ont pas toujours forcément quelque chose qu'on relie directement avec une valeur politique ? Et on pourrait, je ne vais pas le faire ici, citer le catalogue du Met où il est dit, voilà, ce moment où le monde entier retient son souffle, où les nations libres sont envahies et assujetties, où la vision est trouble, où les agences de presse répandent une propagande fallacieuse. À un tel moment, il semble édifiant de reconsidérer un siècle d'art, de surcroît de celui de la nation française qui se trouve actuellement humiliée davantage, encore plus que toute autre nation. Voilà cette citation. Donc c'est quand même très curieux et amusant qu'une exposition qui est une exposition de propagande à la base est ensuite détachée de l'idée de propagande pour en fait être transformée en une sorte d'exposition qui démontrerait à l'inverse que l'art et la liberté est libre du politique et défend des valeurs universelles de démocratie. On pourrait aussi voir chez la critique, il y a cette incroyable chronique que j'ai trouvée aux archives new-yorkaises du Met de Walter Patch, où il écrit, en somme, il fait ce parallèle fascinant entre le déclin de l'art et le déclin des avant-gardes dans le XXe siècle, la peur que l'abstraction et le cours de l'évolution de l'art moderne ne parviennent à son flétrissement ou à son déclin. Et il compare ça au défaitisme de guerre. Mais c'est même pas à demi-mot, c'est même pas entre les lignes, c'est dit de manière extrêmement explicite. Et il dit, non, la France ne doit pas être dans le défaitisme, ni dans la culture, ni dans la guerre. Et à la fin, cette dernière phrase, il dit chante clair, donc le coq français va continuer à crier le soleil va se lever à nouveau, en Europe. Je termine en disant qu'entre-temps, pourtant, la France était devenue la France de Vichy. Le directeur de l'action artistique, son associé proche, Jean Marx, donc Philippe Erlanger et Jean Marx, d'ascendance juive, perdent leur poste, mais les opérations ne sont pas arrêtées pour autant. Donc vous voyez là la confusion symbolique totale d'une exposition née sous le Front populaire, qui devient une exposition de résistance en temps de guerre, réappropriée par les États-Unis comme une exposition de la liberté et de la démocratie, alors que la France est devenue France de Vichy. Et puisqu'on est au Collège de France et qu'il me faut terminer, je trouve que le cas de Faucillon qui est à ce moment-là aux États-Unis, Henri Faucillon, je le dis banalement, grand historien de l'art, était aux États-Unis. Pendant les années 38-39, il participe aux opérations de propagande du service d'action culturelle français. Il va conférencer au Brésil pour accompagner l'exposition dont je vous parlais. Et dès que la France devient la France de Vichy, il se retire complètement de son action et reste dans son université américaine, où il est déjà à Yale, me semble-t-il. J'espère avoir ouvert tout un tas de portes et vous avoir aiguisé votre curiosité. Je recueille vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup.